BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
La deuxième heure de BFM Patrimoine. Merci d'être avec nous ce matin. Le CAC rebondit plus 0,95% après trois séances de baisse consécutives. On va y revenir. On parlera également dans cette nouvelle heure de cette échéance S&P qui demain va se prononcer sur la note de crédit de la France. Est-ce qu'on va être dégradé? On verra quelles sont les raisons qui pourraient pousser pour une éventuelle dégradation avec nos invités de regard croisé. Ce sera dans quelques minutes. Mais d'abord, 11h04. Je crois qu'on a battu un record. On est très, très, très en retard. Un point sur l'actu avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Désolée pour ce retard, Stéphanie.
Aucun problème, Stéphane. Et à la une, c'est l'embellie qui se poursuit sur le marché automobile au mois de mai. Les immatriculations de voitures neuves progressent de plus de 14% en France sur un an, selon la plateforme automobile, avec plus de 145 000 véhicules particuliers immatriculés. Depuis le début de l'année, la hausse dépasse les 16%, mais le marché reste encore en dessous de ses niveaux d'avant-crise sanitaire. Une taxe plane sur les grands industriels s'ils ne rouvrent pas les négociations commerciales avec la grande distribution dans les prochains jours. Et face à cette nouvelle menace de Bruno Le Maire, le président de l'ANIA, Jean-Philippe André, estime ce matin sur BFM Business qu'elle ne sera pas nécessaire. Les prix vont bientôt baisser. On l'écoute.
Peut-être que c'est de notre faute de ne pas informer suffisamment ces équipes. On va le faire, je pense, dès aujourd'hui, parce que c'est cette petite musique, elle est très défavorable à notre industrie. On a fait une réunion entre gens responsables et citoyens. On peut admettre qu'on a des entreprises citoyennes. Je le dis chaque fois, je suis fier de le dire. On est la première industrie de ce pays. J'ai rendez-vous avec vous trois fois par jour sur votre table. Et vous avez une relation de confiance avec nos marques, qu'elles soient régionales ou nationales, depuis plus de 100 ans. Vous croyez qu'on veut mettre ça en jeu sur les 6 derniers mois? Hors de question. On a mis 4 mois l'an dernier, à peu près 4 mois dans les faits, pour augmenter les tarifs. La décrue va prendre à peu près le même temps.
Dans le reste de l'actualité, le secteur manufacturier se contracte plus que prévu au mois de mai en cause l'inflation qui a freiné les nouvelles commandes. L'enquête montre cependant que les prix des intrants reculent pour la première fois depuis juillet 2020. Dans l'actualité entreprise, Safran est entré en négociation exclusive avec Air Liquide. Le groupe veut acquérir ses activités de génération d'oxygène à bord des avions, une opération qui doit permettre à Safran de se renforcer dans le segment militaire. Rémy Cointreau dépasse les attentes. Le bénéfice d'exploitation progresse de plus de 16% à 429 millions d'euros sur son exercice décalé clos le 31 mars. Tiré par la forte demande en Chine et aux États-Unis, le groupe maintient ses perspectives pour 2023-2024. Notez que le patron de Rémy Cointreau sera l'invité de Good Morning Business. Ce sera demain à partir de 8h15. 30 millions de dollars, c'est ce qu'Amazon va verser pour éviter les poursuites aux États-Unis. L'entreprise avait stocké illégalement des données personnelles d'utilisateurs d'Alexa qu'elle avait pourtant promis de supprimer. Le groupe va aussi régler 5,8 millions de dollars pour solder un litige sur la violation de la vie privée. Un ancien employé avait espionné pendant des mois des utilisatrices des caméras Ring. Et puis le tourisme continue de tirer l'économie espagnole. En avril, 7,2 millions de touristes se sont rendus en Espagne, faisant du pays la deuxième destination mondiale après la France, soit une hausse de plus de 18% par rapport à 2022. Et les dépenses des touristes ont aussi augmenté de près de 23% à 8,4 milliards d'euros, Stéphane.
Merci beaucoup, le journal de Stéphanie Collo. On vous retrouve évidemment tout au long de la journée sur BFM Business. Les marchés financiers, on va en parler dans un instant avec Michael Jacobi, responsable du trading chez Oddo BHF. Le marché qui rebondit après trois séances de baisse consécutives.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Bonjour Michael Jacobi.
Bonjour, timide rebond après quelques séances un petit peu sportives. Hein, on a quand même baissé pas mal depuis nos plus hauts d'il y a quelques semaines. Alors on est néanmoins sur une tendance un peu plus positive aujourd'hui. Alors la raison, c'est clairement l'adoption par la Chambre des représentants aux États-Unis de l'accord sur la dette. Et donc, également le redressement surprise de l'activité manufacturière en Chine, alors que les résultats hier ou les chiffres hier étaient plutôt inquiétants. Donc, le marché a décidé de rebondir timidement aujourd'hui. On a quelques publications aussi qui nous donnent un peu de grain à moudre pour se repositionner sur le marché.
Côté valeur, on va d'abord s'intéresser à Rémy Cointreau, puisque les chiffres sont évidemment très bons.
Alors effectivement, Rémy Cointreau nous a montré une publication d'année pleine qui est au-delà du consensus. On voyait lors de la juste avant le conf call un redressement possible du consensus de plus de 1,5%. D'ailleurs, elle a ouvert à ce niveau-là avec un dividende exceptionnel de 1 euro qui était non prévu. En revanche, à la suite du conference call avec le management, on a pu lire quand même quelques petites inquiétudes sur les coûts financiers qui étaient en hausse et donc qui pourraient impacter l'IPS d'année pleine de Rémy Cointreau de plus de 5%. Ce qui explique aujourd'hui la tenue un tout petit peu en demi-teinte du titre. On est à moins 0,21 à l'heure à laquelle on parle. Donc on sous-performe le marché de plus d'1,5% quasiment. Et effectivement, probablement, le consensus va devoir se réajuster d'environ 3%. Donc attention, le titre a une très belle performance, mais on doit s'ajuster un tout petit peu.
Une autre valeur que vous avez suivie aujourd'hui, Mickaël?
Oui, alors on regarde aussi Quadient qui a publié un premier trimestre qui était plutôt bien positif. On est face à un chiffre d'affaires de 256 millions, un consensus qui était légèrement en dessous, une croissance organique qui est à 2%. On est face à des objectifs d'année pleine confirmés, donc tout va bien chez Quadient à l'heure à laquelle on parle et le titre surperforme légèrement le marché à quasiment 1% dans le positif.
Merci beaucoup Mickaël Jacobi, responsable du trading chez Odo BHF. Chef, il est 11h10, regard croisé.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Et nos deux invités ce matin, Sébastien Barbe, directeur général de Montpensier Finance, bonjour. Merci bonjour, d'être Stéphane. Avec nous. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau.
Bonjour Stéphane.
Évidemment, on attend tous la décision de S&P, ce sera demain. La note de crédit de la France va-t-elle être dégradée au vu des indicateurs macro et surtout au vu des perspectives budgétaires qui ont été présentées et défendues par Bruno Le Maire? D'abord un tour de table, mais comment est-ce que vous le sentez, Sébastien?
Peu importe.
Le marché s'en fout?
Non, le marché l'a anticipé. On le voit dans l'évolution du spread entre la France et l'Allemagne. Donc, s'il n'y avait pas de dégradation, pas de signal négatif, ce serait presque une bonne surprise. Mais sinon, je pense que ce sera un non-event. Même si c'est un event important, bien sûr. Mais après forcément, des dégradations, des pour et des contre dont on peut débattre.
Frédéric Rosier.
C'est vrai, ça peut éventuellement inquiéter. On se rappelle un peu la perte du triple A.
On nous avait quand même promis le feu de l'enfer. Qui n'est pas arrivé.
Ah bah, je vais vous raconter une anecdote, si vous avez 30 secondes. C'est effectivement des collègues à vous étaient venus dans la salle des marchés et ils avaient planté leur caméra pour l'ouverture de cette perte de triple A. Ben, ils sont repartis vers 14h sans une image parce qu'il ne s'est rien passé.
Ouais. J'ai vécu un peu la même chose. Je travaillais pour une chaîne américaine à l'époque. Eux, ils avaient évidemment tout leur regard sur la France avec certaines petites...
L'ironie.
Satisfaction, oui, vous connaissez les Américains. Et aussi, ils ont été un petit peu déçus de la réaction. Il ne s'est rien passé.
Et effectivement, donc c'est effectivement largement anticipé par le marché. Après, ça va être effectivement... on a vu Madame le Premier ministre rencontrer des agences et, à mon avis, il y a eu des discussions sur la trajectoire budgétaire. Et au-delà de ça, c'est effectivement, est-ce qu'on ne rentre pas dans les deux ans à venir sur des politiques plus coercitives en termes de politique budgétaire. Et on le voit, il y a eu un dérapage global de l'endettement à l'échelle mondiale. Il va falloir un peu resserrer les boulons et c'est peut-être ça, au-delà de l'effet, à mon avis, il n'y aura pas d'effet court terme, c'est peut-être effectivement les contreparties qui seront données à ces agences de notation sur les politiques à venir qu'il faudra surveiller de près.
Politique budgétaire plus restrictive, pour autant... Bruno Le Maire nous a dit plusieurs fois que c'était la fin du quoi qu'il en coûte avant d'annoncer de nouvelles mesures, notamment la plus récente, des mesures en faveur des classes moyennes.
Non, mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est ce qui a changé. C'est pas tellement. Bien sûr, on a la dette en absolu qui, en euros, est importante, qui a grossi. On voit la difficulté de faire des réformes en France. En tout cas, ça s'est émoussé. Mais la dette sur PIB, elle a plutôt baissé par rapport au pic début 2021, parce que le PIB, il grossit aussi. La vraie chose qui a changé, c'est le coût de la dette. Alors, ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais à chaque émission qui arrive à échéance, il faut en émettre une nouvelle avec un taux plus élevé, et on sait bien que dans le budget, ça va coûter plus.
Chaque fois qu'on fait rouler la dette, elle nous coûte un peu plus cher.
Exactement. Donc la duration de la dette de l'État français est assez longue quand même, donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on rentre dans un monde où effectivement l'argent coûte plus cher. La répercussion d'une baisse éventuelle de rating, c'est la même chose normalement sur les banques. Derrière, donc ça veut dire qu'on est dans ce monde où on restreint un petit peu l'accès au crédit, et quand on y a accès, il est plus cher. Et ça qu'il faut réfléchir en termes d'impact sur les portefeuilles, sur la gestion de tout à chacun, globalement. Donc la fin du quoi qu'il en coûte, ça a déjà été dit, mais c'est surtout que le quoi qu'il en coûte coûte plus cher. Donc il faut faire un petit peu attention.
Vous l'avez dit, la réaction sur le marché obligataire était relativement limitée. Est-ce qu'on a un risque aujourd'hui de revivre la crise de la dette des années 2010-2011 dans la zone euro avec la remontée des taux ?
On ne peut jamais écarter un risque s'il y a des dérapages, mais la dernière fois qu'on m'a posé cette question, c'était au moment de l'élection en Italie, où l'extrême droite a pris
Giorgia Meloni
a pris le pouvoir, et force est de constater que depuis qu'elle est arrivée, il se passe pas grand-chose, et on a même un spread Italie-Allemagne qui a tendance à se resserrer. Quand le spread justement France-Allemagne a du mal à se resserrer, parce qu'on a ce débat sur la note qui arrive. Donc je pense que la probabilité n'est jamais nulle, mais elle est faible.
Même sentiment, Frédéric ?
Oui, alors ce qu'on va surveiller, c'est le secteur bancaire, bien sûr, parce que le secteur bancaire, nos trois banques sont sur des signatures A+. Ce sont leurs fonds propres. Et donc, la dégradation, quelque part, de la dette française peut avoir un petit impact sur le secteur bancaire. Ça avait été le cas lors de la perte du AAA. Alors, sur l'aspect, est-ce qu'on est dans un scénario comme on a connu sur la crise de la dette ? La grosse différence qu'on a sur nos banques aujourd'hui, alors on va pas réitérer le fait que nos banques sont largement capitalisées, mais c'est vrai que, je vous rappelle qu'il y a une dizaine d'années, vos dépôts étaient garantis par de la dette grecque, par exemple, ou de la dette italienne. La grosse différence qu'on a aujourd'hui, c'est que les dépôts sont en face d'actifs passifs dans la même région. Donc l'effet de contamination éventuellement d'un défaut d'un pays ne viendra pas affecter la solidité bancaire des banques françaises. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Après, c'est vrai que il y aura peut-être un petit delta sur le coût du risque, des choses comme ça, qui va affecter peut-être un petit peu à la marge les banques, mais pas de cataclysme comme on l'a pu le connaître il y a une dizaine d'années.
À part le secteur bancaire, quels sont les secteurs en bourse qui sont les plus exposés en cas de dégradation de la note française ? Tous ceux qui sont, comme on les appelle, capital intensive ?
La conséquence d'une dégradation, si ça devait s'accélérer et tout ça, c'est encore une fois l'accès au crédit qui est plus cher et plus sélectionné. Donc forcément, les entreprises qui auraient des bilans lourds, qui auraient aussi leurs propres échéances à refinancer, sont plus impactées par un environnement où l'argent est plus cher. On peut penser à l'immobilier, par exemple. Je pense que maintenant, ça fait la une de tous les journaux, quand même. Ça, c'est forcément plus difficile et c'est forcément plus durable. À l'inverse, il y a plein d'entreprises en France, en Europe et dans le monde, bien sûr, qui ont des bilans solides, qui ont des projets d'investissement, tout ça, qui finalement pourraient presque en bénéficier indirectement, puisque c'est un jeu, si je ne mets pas là, je le mets là, c'est ces entreprises qui vont tirer profit.
On aura la décision évidemment de S&P demain et ce sera à suivre sur notre antenne. Le marché parisien rebondit ce matin, plus 0,8%. Après trois séances de baisse consécutives, on a quand même pas mal corrigé en l'espace de quelques jours. On est en dessous des 7002 largement. On est à 7155 points. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, Frédéric, sur un marché comme celui-ci ?
Bon, alors déjà, il y a eu la clôture du mois de mai, donc il y a un effet.
C'est un très mauvais mois,
voilà.
D'habitude.
Oui, alors le mois de juin, globalement, est un mois légèrement négatif. Alors avec des extrêmes, mais globalement sur les 30 dernières années, c'est globalement négatif. Donc il y a une saisonnalité qui est moins favorable pour plein de raisons, on va le rappeler. Bien sûr, post-distribution des dividendes, la tendance est bien sûr de sortir. Aux États-Unis, le paiement de l'impôt fait qu'on sort aussi un peu des marchés. La trajectoire des révisions bénéficiaires est plutôt négative sur les valeurs cycliques sur la partie juin-juillet. Donc on peut avoir des ajustements à la baisse. Ce n'est pas le cas pour l'instant. On voit même aux États-Unis plutôt des relèvements d'anticipation de croissance bénéficiaire. Donc oui, il y a quelque chose qui peut éventuellement se passer, qui est le fameux « sell in May et go away », qui a été, à mon avis, un petit peu décalé par cette histoire de la dette américaine, qui a fait qu'on a eu cette prise de bénéfice peut-être un petit peu en amont, une petite crainte. Peut-être injustifiée, on le voit d'ailleurs.
Même si elle est restée quand même assez limitée.
Elle est restée relativement limitée. Ça prouve aussi qu'on a un train relativement fort. Et on a trouvé la marotte de l'intelligence artificielle. Et je peux vous le dire, on va la sortir à toutes les sauces. On va la mettre à toutes les sauces.
Alors, il y a ceux qui en bénéficient vraiment. On a beaucoup parlé d'NVIDIA sur ce plateau. Il y a ceux qui vont essayer, un petit peu comme le greenwashing... dans la transition écologique.
Oui, mais demain, on va vous vendre des lessives et on va vous dire qu'il y a l'intelligence artificielle derrière. Donc, je vous promets que ça va être comme on l'a connu il n'y a pas si longtemps, où on mettait blockchain à la fin d'une entreprise pour la faire monter, comme on mettait à un moment donné dot-com dans les années 2000 pour la faire monter. Donc, on va générer quelque chose de fort boursièrement parlant, et aussi, et là on est en train de sortir des trajectoires de croissance, notamment de PIB dû à l'intelligence artificielle. On parle de 7 000 milliards, ça n'a plus de sens, de gains de richesse d'ici 2030. Donc c'est sûr que si vous avez un accroissement de 10 à 15% de prévision de hausse due à l'intelligence artificielle, vous pouvez faire monter le marché encore longtemps. Donc oui, on va bénéficier de ça quelques temps. Par contre, le marché est scindé, clairement les valeurs cycliques aujourd'hui, elles sont plombées. La plus grosse perte, pardon, sur le marché, on voit par exemple le secteur automobile qui était parti en fanfare parce qu'on s'attendait plutôt à une trajectoire économique favorable. On est en train de dégrader un petit peu la trajectoire économique sur le second semestre. On voit les cycliques en train de baisser. Donc oui, c'est des bases communicants, mais on est quand même tiré par ces grosses capitalisations d'intelligence artificielle.
Alors aujourd'hui, c'est le contre-exemple. Les valeurs automobiles rebondissent, mais c'est vrai qu'elles avaient beaucoup perdu depuis quelques semaines. Mois de juin, donc, on l'a bien compris, Sébastien Barbe, qui n'est pas forcément favorable pour les marchés actions. Frédéric nous a expliqué pourquoi. C'est quoi la prochaine échéance pour les marchés actions?
Alors, je crois qu'il y a une très bonne nouvelle. En réalité, on n'en parle pas assez. C'est que la Fed, normalement, a fait son pic de hausse des taux. Certes, il y a un débat en ce moment. Est-ce qu'il faut faire 5,25 ou s'arrêter à 5? Les paris sont ouverts, comme sur la dégradation de la dette française. Mais en fait, chez Montpensier, on démontre que, historiquement, quand la Fed a fait son pic, le marché monte derrière. C'est après la pluie.
Parce qu'on joue le coup d'après, bien sûr.
Voilà. Et là, ce qui est frappant, c'est que vous disiez, Stéphane, que le CAC a un peu rebaissé par rapport à ses plus hauts. Et c'est vrai que nous, Européens, on a l'impression que la bourse a bien monté, a bien rebondi, en tout cas depuis le 1er octobre. Mais en réalité, c'est beaucoup plus vrai d'ailleurs sur le marché américain. En réalité, sur le marché américain, il y a très peu de valeurs qui ont monté. Le Russell 2000, qui représente les mid-cap, qui sont quand même des grosses valeurs aux États-Unis, est en baisse depuis le début de l'année. Le S&P, si on enlève les 5 valeurs, dont Nvidia, il n'a rien fait depuis le début de l'année. Donc, le paradoxe, c'est qu'on va beaucoup parler d'intelligence artificielle, et c'est un vrai sujet, parce que l'intelligence artificielle va capter une partie de la capitalisation boursière du monde par toutes les promesses qui seront réalisées ou pas. Mais pour autant, il y a tout un pan de la côte qui, lui, finalement, attend la fin de la pluie. Et la fin de la pluie, c'est peut-être maintenant. Et à court terme, on peut être un petit peu prudent. C'est le mois de juin. On sent bien que l'économie américaine rentre en récession. Tout a été un petit peu repoussé, mais on sent bien qu'on est dans cette période-là. Mais comme en plus on a un parterre d'investisseurs qui est assez prudent, bah, y a peut-être un timing de marché qui fait qu'on peut s'intéresser à tout un tas de valeurs qui n'ont pas profité des rebonds qui ont pu être forts sur d'autres sujets.
Donc l'info, l'événement qui pourrait faire rebondir le marché, ce serait une annonce de la part de la Fed, très clairement, qui nous dit ça y est, on est au pic des...
Alors ils le diront sans doute pas, mais à la limite, peut-être que plus on aura des chiffres évidents que la récession industrielle est en train de se passer, et je pense qu'on y est...
Et on en a eu encore ce matin en Europe avec le PMI manufacturier en France et en Allemagne.
La France n'était pas exempte de cette remarque. Plus peut-être on va le marché va considérer que les banquiers sont trop, vont arrêter de monter les taux. D'ailleurs, même la BCE, hein, la BCE, on considérait qu'il y avait deux hausses de taux encore à venir. Le marché price 1,5 maintenant. Et à partir du moment où le marché considérera que c'est fini, peut-être qu'on aura cette deuxième phase assez intéressante pour jouer les portefeuilles actions, les portefeuilles d'obligations convertibles, en tout cas tous les portefeuilles qui bénéficieraient justement de ces expositions sur les valeurs qui n'ont rien fait.
Est-ce qu'on peut espérer, Frédéric Rosier, on est à peu près au même niveau en Europe? On a vu que l'inflation commençait à reculer en France. On est retombé au plus bas niveau depuis un an. On est encore à 5,1% et à plus de 14% pour l'inflation alimentaire. Mais est-ce qu'on peut espérer, de la part de la BCE, pareil, une annonce ou en tout cas un sentiment prochainement que ça y est, le pic est peut-être atteint, ou comme on avait commencé avec retard, vous seriez peut-être pas aussi optimiste?
Non, c'est pas gagné encore.
Ouais.
C'est pas gagné. Qu'on entend un peu les voix, notamment d'Europe du Nord, cœur d'Europe, c'est pas gagné. Bah, je parierais pas là-dessus. Je pense que le marché va être effectivement plus sensible à ce que va dire la Fed dans les prochains jours. Il y a une conséquence quand même tout ça, ce mouvement notamment d'anticipation de pic sur les taux. C'est que le marché va continuer à se scinder en deux par la crainte de la récession. Et je pense que les valeurs de croissance qui ont quand même bien marché vont continuer à accentuer cette avance. Et ça peut aussi justifier que le mouvement qu'on a eu en Europe, en relatif par rapport aux États-Unis, soit moins favorable. Et donc, se réintéresser aux États-Unis par rapport au décalage de cycle notamment, je pense que c'est plutôt le bon choix. Donc en Europe, plutôt défensif avec de la visibilité moins cyclique, et aux États-Unis peut-être remettre un petit peu de cyclicité et bien sûr des valeurs de croissance.
La décision de la Banque Centrale Européenne, ce sera dans deux semaines, hein, exactement, réunion le 15 juin prochain du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Il nous reste un peu moins de 3 minutes. Qu'est-ce que vous achetez, qu'est-ce que vous vendez, comment est-ce que vous êtes investi en ce moment? D'abord avec vous, Sébastien, chez Montpensier.
Oui. On a adopté une attitude un tout petit peu plus prudente ces derniers temps, en considérant qu'il y a deux risques. Hein. Le risque, c'est de se tromper. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Montpensier était devenu positif fin septembre, c'était cette notion de PIB nominal, qui était très fort, même si le PIB réel, on en parle tous les jours, mais le PIB nominal, qui sont les ventes des entreprises, c'était quand même plus difficile d'être pessimiste à ce moment-là, et puis le marché était très noir. Tout ça est en train de s'étioler, mais enfin, c'est encore vrai, hein, le PIB nominal aux États-Unis au premier trimestre, c'était plus 7%. La deuxième raison de risquer de se tromper, c'est que il y a encore beaucoup d'investisseurs qui sont assez prudents, et on voit bien que dès que ça baisse, on a des souscriptions, donc c'est bien le cas. Donc on se dit sell in main, go away un petit peu, mais je pense pas que le marché puisse baisser énormément. Donc on se repositionne sur nos valeurs de grandes thématiques qui vont bénéficier finalement des grands capex, des grandes sources d'investissement dans le futur, que ce soit bien sûr les transitions climatiques. On a parlé ensemble déjà de la santé, on y croit également beaucoup. On a un fonds
officiel.
Alors, on a un fonds cloud, justement, qui bénéficie indirectement de tout ce qui, de toute cette publicité autour d'intelligence artificielle, et qui monte très fortement depuis le début d'année. Ça fait partie des thématiques gagnantes. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les obligations convertibles dans ce contexte-là. Parce que dans le contexte où c'est plus difficile d'avoir son banquier qui nous prête, ou le marché qui prête à des taux très bas, eh bien, on voit qu'il y a des émissions maintenant pratiquement tous les jours. Alors, c'est dans le monde entier, hein, c'est pas que la France ou l'Europe. Et donc, on va retrouver finalement les convertibles des années 2000, où cette classe d'actifs, elle n'est pas simple, mais cette classe d'actifs s'en sort en général très très bien. Voilà ce qu'on fait chez Montpensier.
Frédéric, je vous ai vu hocher la tête.
Oui, sur
vous
convertibles,
achetez des convertibles
parce que
aussi
nous, on voit, typiquement chez nous, c'est un grand succès. C'est 1 milliard de levées sur les convertibles. Parce qu'il y a une convexité aujourd'hui qui est incroyable. C'est que le plancher obligataire, les convertibles, c'est un produit qui est mixte. Hein. Vous avez une partie obligataire et la capacité de transformer cette obligation en action quand ça monte. Sauf que il y a encore quelques temps, le rendement était négatif. Et donc, vous aviez le risque effectivement de perte. En plus, quand il y avait des spreads qui s'écartaient, c'était vraiment pour le coup pas bon. Et l'année dernière, c'était pas terrible. Là, vous avez un rendement qui est largement positif, une sensibilité à la hausse des actions, en plus sur des secteurs où des valorisations qui sont relativement faibles. Donc ça offre un potentiel d'appréciation avec un plancher obligataire. Aujourd'hui, 3-4%, c'est pas difficile à trouver sur les convertibles. Donc c'est vraiment une classe d'actifs aujourd'hui qu'on a tendance à privilégier. Et sur les secteurs, le secteur de la santé européen qui a pas fait grand-chose depuis quelques temps, food and beverage, donc alimentation, qui a pas fait grand-chose aussi sur la partie Europe, et bien sûr aux États-Unis, les valeurs de croissance technologique, on a vu Nvidia, mais il y a plein d'acteurs, il y a Micron, AMD, des acteurs comme ça, on a vu Marvel aussi faire des progressions assez hallucinantes, et il y aura après aussi des GAFA, on a vu Alibaba, la scission d'activité sur le cloud avec la partie Baba Cloud, on pourrait avoir la même chose par exemple sur Amazon avec AWS, donc il y a des catalyseurs de nouveau qui existent, et les valorisations, attention, ne sont pas excessives au regard de la croissance. Nvidia, c'est pas des prix stratosphériques malgré les 250% de hausse, hein, c'est lorsqu'on en a sur les points bas. Donc ça laisse, même sur ces acteurs qui ont fortement monté, encore une capacité de progression.
On fera le bilan dans un mois, on verra si le mois de juin a fait mentir, le mois de juin 2023 a fait mentir donc cette statistique qui veut que le mois de juin soit plutôt un mois négatif sur les marchés. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter la stratégie, et puis bien sûr on en parlait. La décision de S&P, ça sera à suivre demain sur notre antenne, décision concernant la note de crédit de la France. Dans un instant, on va retrouver Jean-Louis Cussac chez Perceval pour nous parler de cette séance en cours à la Bourse de Paris. Ensuite, on parlera d'investissement responsable, votre rendez-vous sur le green avec Yasmina Serghini qui nous parlera ce matin des obligations durable. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi.
La Bourse de Paris rebondit, plus 0,82% à l'instant, 7157 points pour le CAC 40 après trois séances de baisse consécutives. On va s'arrêter sur cette séance avec Jean-Louis Cussac, trader, formateur chez Perceval Finance. Rebonjour Jean-Louis, j'aimerais qu'on revienne sur les volumes d'hier sur les marchés. Des volumes importants, quelle était la raison ?
Ah oui, c'est le petit mot que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, alors on peut pas être certain, je sais pas, il y a pas. En règle générale, ce sont des ajustements de pondération dans les indices MSCI, c'est-à-dire Morgan Stanley Capital Investment. En fait, si vous voulez, c'est très technique. Donc ce que je voulais mettre par là en exergue, c'était que les intérêts, ce sont pas des intérêts de conviction, encore une fois, ce sont des intérêts techniques. Et vous savez que malheureusement, sur les volumes, par exemple, au quotidien, sur le CAC 40, quand on parle de 3 milliards, par exemple, il faut considérer qu'il y a 2 milliards d'intérêts techniques, c'est-à-dire des arbitrages entre le cash, les actions et les contrats futurs, etc. Donc les paniers, les futurs, les options, etc. C'est assez impressionnant, hein, en fait. C'est pour ça qu'aussi le fixing, en général, il y a souvent 1 milliard, entre 900 millions à 1 milliard 2. Bon, hier, c'était je sais pas combien de milliards, mais c'est exceptionnel. Mais si vous regardez, l'année dernière, à la même date, on a eu exactement un volume pareil comme ça. Enfin, là, c'était 7 et quelques l'année dernière. Là, c'est 9,60. Donc, ce sont des volumes techniques. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire une différence entre les volumes techniques et les volumes de conviction. Comprendre comment est construit un marché, c'est très important pour bien l'interpréter. Et nous, quand on fait des formations, justement, on insiste beaucoup là-dessus, sur la compréhension de à quoi j'ai affaire, en fait. Ça, c'est assez majeur pour bien interpréter. Donc voilà, hier c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai que les volumes sont faibles, 350 millions tout à l'heure à 10h30. Là, on est à 450 millions. Il s'est pas passé grand-chose. On est allé chercher un point haut là tout à l'heure, un peu au-dessus de 7170. Donc on a fait 1,20 par rapport au point bas d'hier de reprise, 0,64 de repli, 0,69 de rebond. Et puis là, on aimerait que ça revienne, bon, par exemple, vers 7140. On pourrait commencer à peut-être à acheter un petit peu en intraday. Donc ça, c'est vraiment le comportement opportuniste intraday. Il n'y a pas de quoi, dans ce genre de situation, prendre de grandes décisions long terme. Peut-être que si on considère et qu'on accepte le 7030 retournement de tendance, on pourrait se dire, bon, ben, dans une perspective long terme, entre 7150 et 7050, pourquoi pas, je vais essayer d'aller à la chasse aux bonnes affaires. Je vais essayer d'acheter les actions dans lesquelles j'ai une conviction acheteuse pour donc prendre position. Il y a probablement des opportunités. Maintenant, c'est à chacun de faire ses choix. Là, en l'occurrence, c'est vrai que il y a pas énormément de volume et il n'y a pas d'intérêt fort. On le voit sur les actions en une heure de temps. Vous voyez, il y a Unibail qui a repris 1%, et puis au pire, c'est Renault qui a perdu 1%. Donc, il y a beaucoup d'hésitation, il y a une incertitude quand même, il y a des craintes sur la croissance. On a un CAC 40 qui est faible, mais sans relais, un petit peu comme on a un euro-dollar faible, mais sans relais. D'ailleurs, si tout à l'heure Alexandre disait que peut-être la Fed ne remonterait pas ses taux, on était passé de 70 à 30%, disait-il. Eh bien, ça pourrait bénéficier en effet à l'euro à ce moment-là, puisque une hausse des taux sur le dollar, évidemment, ça rend le dollar intéressant. Donc là, ça pourrait provoquer une reprise technique de l'euro-dollar. Pourquoi pas? On va surveiller ça. Mais on voit bien que cet euro-dollar également ne prend pas une direction baissière marquée, comme le CAC 40 ne prend pas une direction baissière marquée. Et c'est vrai, on reste dans l'idée d'un retracement, toujours peut-être exploitable dans une perspective long terme.
Merci beaucoup Jean-Louis Cussac, trader et formateur chez Perceval. C'est l'heure de Sur le Green, on va vous parler d'investissement responsable, il est 11h37.
BFM Business, BFM Patrimoine, Sur le Green.
Et ce matin, on va vous parler des obligations durables avec Yasmina Serghini. Bonjour.
Bonjour, Sylvain.
Vous êtes responsable Europe du Sud pour la notation des sociétés non financières chez Moody's. À quel point les obligations durables sont aujourd'hui plébiscitées par les investisseurs? Est-ce que vous avez des chiffres clés, des statistiques pour nous donner justement une idée de cette appétence?
Alors oui, c'est vrai, il y a une réelle appétence pour les obligations durables et les émissions d'obligations durables, elles ont bondi en fait depuis plusieurs années. Et ça répond à un vrai besoin des investisseurs notamment de financer des investissements durables, à savoir ceux qui ont un effet bénéfique sur l'environnement ou sur la société. En termes de chiffres, les émissions d'obligations durables, elles ont vraiment bondi. On est passé de à peu près 100 milliards de dollars en 2016 à un niveau record, 1050 milliards de dollars en 2021. Alors, cela étant dit, le compartiment des obligations durables, il n'est pas épargné hein, par les à-coups que subissent les marchés de capitaux. On a pu le voir l'année dernière, sur fond de hausses successives des taux d'intérêt. On a eu aussi les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques. Ça signifie que les marchés obligataires dans sa totalité, hein, tout segment confondu, le marché a reculé de 25-27% environ. Le segment des obligations durables, lui, il n'a diminué, enfin, il a reculé que de 15%. Donc, il résiste.
Ouais.
C'est bien, il résiste. C'était d'ailleurs la première année de repli qu'on a vue depuis l'année 2011. Et sur toute l'année 2023, ce qui est plutôt positif, ce qu'on constate, c'est que le démarrage de l'année, il est bon. Au premier trimestre, les obligations durables, elles ont augmenté de l'ordre de 35% par rapport au dernier trimestre de 2022. Et sur toute l'année 2023, on s'attend à ce que les émissions totalisent 950 milliards de dollars. C'est pas le niveau record de 2021. On n'attend pas, en fait, à ce qu'on retourne sur ces niveaux-là. Mais c'est quand même beaucoup mieux que 2022.
Quelle est la réalité de ce marché en France? Est-ce que les entités françaises émettent ce type d'obligations? Et si oui, dans quel secteur?
Alors, c'est sûr, hein, que les émetteurs français, ils sont pas en reste. Il y a un vrai appétit assez authentique des émetteurs français, à commencer par le gouvernement français. Le gouvernement français, c'est vraiment la première économie avancée qui est arrivée sur le marché des obligations vertes.
Et il y a aussi une volonté politique. Hein,
et il y a totalement une volonté
de
politique.
De se présenter comme l'un des leaders mondiaux et en tout cas peut-être le leader européen sur ce
complètement
marché.
Et je pense qu'il faut garder en tête que la France veut aussi faire preuve d'exemplarité. Il y a eu les accords de Paris, ça signifie des investissements colossaux pour financer la transition vers une économie bas carbone. Donc on a vu le gouvernement français qui est arrivé sur le marché des obligations vertes en 2017, il me semble que c'était le premier trimestre. Depuis, on en a vu beaucoup, dont la ville de Paris notamment. Et dans le secteur privé, les grandes sociétés emblématiques de l'économie française accède en fait au marché des obligations vertes. Laissez-moi vous donner un ou deux exemples. Cette année, on a vu Air France KLM, qui a émis 1 milliard d'euros d'obligations durables. Et ce qui était très intéressant sur cet instrument-là, qui a été émis par Air France KLM, c'est que le coupon peut varier. Et il peut varier en fonction de l'atteinte par la société d'objectifs environnementaux, bien sûr, qu'elle a décidé. Et en l'occurrence, c'est la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est vraiment très positif. Dans un autre secteur qui est tout aussi, on va dire, difficile hein, d'un point de vue carbone, c'est Renault. Renault, lui, a mis en place un contrat cadre dans lequel peuvent venir s'insérer à l'avenir des obligations durables qui pourront financer un certain nombre de projets avec des effets positifs sur l'environnement, des projets sociaux ou les deux, en fait.
Qui détermine le caractère durable de ces obligations ? Est-ce que ce sont les entreprises qui autoproclament leurs obligations durables ou est-ce qu'il y a des critères j'allais dire plus objectif.
C'est vraiment la question, je pense peut-être de la décennie, c'est vraiment une question qui revient très régulièrement, d'abord parce que comme on le disait, il y a un appétit qui est tel.
Qu'est-ce qui peint en vert ?
Ben justement, alors les investisseurs, ils veulent ces instruments-là, il y a un vrai besoin, mais ce qu'ils veulent aussi, c'est de la comparabilité, ils veulent de la transparence. Et donc, en parallèle de la croissance de ce compartiment, vous avez des normes qui se développent. Et en 2023, il y a eu une avancée vraiment importante, je pense qu'il faut en parler, c'est un accord provisoire pour le moment, mais je pense qu'il devrait être finalisé, à l'échelle européenne, de réglementer les obligations vertes. L'objectif, au fond, c'est d'introduire un label. Le label qui aiderait en fait à introduire de la transparence, de l'intégrité. Et ça, c'est vraiment important, vous l'évoquiez plus tôt, du fait des engagements qui ont été pris par les pays, qui vont pour transitionner vers une économie bas carbone. Et ces infrastructures-là, c'est pas que le secteur public qui va les financer, c'est également le secteur privé qui va devoir les financer. Et donc le label, ça va aider à instaurer de la confiance dans ce compartiment-là et donc à dynamiser en fait ce secteur-là. Juste un petit point justement là-dessus sur les infrastructures. On en parlait il y a un instant en parlant de Air France KLM, de Renault, des secteurs qui sont confrontés à cette transition, voilà, ce challenge un peu important. Aujourd'hui, les obligations durables, ce n'est pas forcément un gros morceau de leur bilan. Mais on s'attend à ce que les obligations durables représentent en fait une proportion plus importante de leurs sources de financement à l'avenir, parce que justement, il faut qu'elles financent. Et donc, encore une fois, ce n'est pas que les gouvernements qui vont devoir payer ces investissements-là, c'est le secteur privé. Dans le secteur automobile, si on reste sur cet exemple-là, vous avez la fabrication des véhicules électriques, la fabrication de batteries plus économiques, en fait. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment beaucoup très présent dans l'esprit des consommateurs. Les infrastructures de recharge, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, en fait, qui a besoin d'être financé aujourd'hui.
Vous l'avez dit, prémisse d'un label européen sur les obligations durables. À quelles autres avancées est-ce qu'on peut s'attendre sur le marché de la dette durable ?
Alors, sur le marché de la dette durable, il y a des innovations. On l'a vu, on en parlait un instant. Les obligations vertes à leur époque, quand elles ont commencé à émerger, c'était une innovation. Depuis, on a vu des obligations bleues. On n'en a pas parlé, mais ce sont celles dont le produit sert à financer les projets qui sont bénéfiques aux fonds marins et aux écosystèmes marins. Et depuis quelques temps maintenant, il y a une demande pour avoir des financements qui sont dédiés plutôt au financement des projets pour aider à la diversité des genres, et notamment le rôle de la femme.
Et quelle couleur on leur donne à ces...
Alors ceux-là, je vais y arriver dans un instant. En fait, en tout, ils ne sont pas très représentatifs. C'est encore un montant qui n'est pas très important. On parle de 25 milliards de dollars en 2021. Ça a quand même progressé. Au niveau mondial, on est d'accord. Ça a progressé à 33-35 milliards de dollars en 2022, donc c'est vraiment un progrès. Alors c'est sûr qu'en montant absolu, c'est pas très important, mais l'éventail des émetteurs qui cherchent effectivement à soutenir ce projet sociétal, il se diversifie. Vous avez les entités supranationales, les banques multilatérales de développement, et de plus en plus, vous avez les entités du secteur privé, qu'elles soient des financières ou des non-financières, parce que c'est la diversité des gens, c'est vraiment à l'agenda de tout le monde, hein, de la société civile de manière générale, et on l'a vu avec des réglementations, et pas que au niveau de la communication financière, il faut vraiment faire avancer cet agenda-là. Et donc, vous demandiez quelle couleur. Singapour a fait une demande, en fait, de les qualifier de orange, ces obligations-là. Donc, on aurait des obligations orange, peut-être à l'avenir, dont le produit des émissions servirait à financer des projets bénéfiques aux femmes et aux minorités de genre. Et ça, c'est des innovations qui peuvent vraiment dynamiser ou continuer de dynamiser ce compartiment.
Cela rentrerait dans la catégorie S de l'ESG.
Parfaitement. Ouais. Voilà.
Merci beaucoup d'être venu en plateau, Stéphane, ce matin. Yasmina Serghini, je rappelle que vous êtes responsable Europe du Sud pour la notation des sociétés non financières chez Moody's.
Merci beaucoup.
Il est 11h45, on va passer aux questions-réponses.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Avec Jean-François Fillâtre en duplex, directeur éditorial de Marché Gagnant. Grosse évolution, Jean-François a mis une veste, l'heure est grave. Ravi de vous retrouver Jean-François. Question de Miguel qui nous dit: la baisse de l'inflation annoncée pour le mois de mai va-t-elle avoir un impact sur le taux du livret A en août prochain?
Alors, effectivement, c'est absolument sidérant. On a l'INSEE qui a sorti l'inflation provisoire pour le mois de mai, donc avec un recul de 5,9 à 5,1%. Et j'ai vu toutes les déclarations, j'ai vu tout ce qui a été écrit dans les journaux. Chute de l'inflation, le gouverneur de la Banque de France qui nous annonce que le pic est derrière nous, etc. Juste, je me permets une petite remarque d'épargnant. On a aujourd'hui les fonds en euros qui rapportent, qui est quand même l'enveloppe dans laquelle les Français ont mis le plus d'argent, qui rapportent en moyenne 2%. Que l'inflation passe de 5,9 à 5,1%, c'est sympathique, ça nous fait une belle jambe, mais on reste encore en termes de gain de pouvoir d'achat dans un territoire très largement négatif. Donc franchement, j'ai du mal à m'enthousiasmer sur cette busque réelle, mais qui est très loin de mettre fin à la répression financière. Réponse à la question de Miguel, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça peut changer? Réponse oui et non. Alors pourquoi cette réponse de Normand de la part d'un Bordelais? Parce qu'il y a la théorie, il y a la pratique. Alors, on va commencer par la théorie. Le taux du livret A, il a vocation à être fixé selon une formule mathématique qui prend en compte deux éléments. D'une part, les taux à court terme, ça s'appelle ESTER désormais, et d'autre part, l'inflation. Donc, commençons par le premier élément. ESTER, aujourd'hui, est-ce qu'on a vocation à avoir une surprise? On prend la moyenne, le chiffre mensuel sur les 6 derniers mois. C'est ce que fera le gouverneur le 15 juillet lorsqu'il fera la demande. Si jamais cette année, il fait pas comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il respecte pas la règle en fournissant sa recommandation avant la date qui est prévue dans les textes. Mais bon, aujourd'hui pour ESTER, on a la moyenne pour janvier, on l'a pour février, on l'a pour mars, on l'a pour avril, on l'a pour mai. Et donc la question, c'est l'inconnu sur cette partie-là, c'est le mois de juin. Est-ce que l'inconnu, elle est importante ou pas? En réalité, elle est relativement faible. ESTER était à la fin du mois de mai à 3,15%. On devrait rester dans ce niveau-là dans toute la première partie du mois de juin, c'est-à-dire les 15 premiers jours. Le 15 juin, vous le savez, il y a une réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Donc, on pourrait monter de 25 points de base. Ça ferait une petite hausse. Mais très sincèrement, une petite hausse sur 15 jours, c'est pas ça qui va nous changer le calcul. Donc, le sujet, il est maintenant du côté de l'inflation. L'inflation, précision importante, c'est l'inflation hors tabac qui est prise en compte pour le calcul du livret A. Donc, on connaît déjà les chiffres pour janvier, pour février, pour mars, pour avril. Pour mai, l'INSEE nous a donné un chiffre, mais ce chiffre, il est global. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas, il ne faut pas exactement le transposer parce que ce n'est pas le chiffre hors tabac. Et puis, pour juin, on a des prévisions de l'INSEE qui sont à 5,4% d'inflation. Là encore, c'est un chiffre global, ce n'est pas un chiffre hors tabac. Précision importante, au moins l'an dernier, sur les mois de mai et sur les mois de juin, l'inflation sur la partie tabac, c'était zéro. Donc, s'il y a le moindre mouvement à la hausse sur le tabac, ça fera que l'inflation tabac sera supérieure à l'inflation générale. En pratique, j'ai fait mes calculs. Tout ça, c'est censé nous amener à une formule de calcul avec un résultat de 4,2 pour le taux du livret A, en raison des règles d'arrondi. En pratique, je crois que le gouverneur, à ce moment-là, activera la possibilité qu'il a de déroger à la règle, et je pense qu'il le fera pour donner beaucoup moins. Ma prévision, c'est de se dire que, grosso modo, le ministre a grosso modo dit qu'il fallait commencer à faire un geste. Donc, entre 3 et 4,2, j'aurais tendance à dire qu'il pourrait y avoir un geste au milieu, mais ça sera, à mon avis, un peu moins. Donc, plutôt 3,5. En revanche, là où le chiffre de l'inflation, il va avoir une incidence, ça va être sur les gens qui ont peu de ressources financières et qui peuvent bénéficier du LEP. Pourquoi? Parce qu'en pareille situation, la même formule s'applique, mais il y a un minimum avec le niveau de l'inflation. Et donc, le minimum avec le niveau de l'inflation, selon les estimations qu'on peut faire, ça nous amène à 5,7 d'inflation en moyenne ou 5,8. Ça veut donc dire que le livret d'épargne populaire va baisser, normalement au mois d'août. Et juste, je me permets comme ça une petite remarque pratique, parce que j'entends bien le discours des autorités sur le livret d'épargne populaire qui est plafonné à 7 700 euros, en disant voilà, c'est un truc bien pour des gens qui ont peu de moyens, etc. Franchement, quand on veut aider des gens qui ont peu de moyens, on se débrouille pour qu'on n'ait pas une rémunération à la quinzaine, parce que je vous rappelle que si vous mettez de l'argent sur votre LEP le 3 du mois et que le 12 vous le retirez parce que vous avez besoin de payer quelque chose, on peut vous dire que vous avez 5,7, 5,8 ou 6,1% de rémunération. En pratique, vous avez zéro parce que vous n'avez pas passé une quinzaine.
Jean-François, j'ajoute une question à celle-ci, celle de Martine, qui nous demande si on peut déplacer le plafond de 22 950 euros sur le livret A. Je connais la réponse, mais je vous laisse la donner.
Non, mais ce plafond du livret A, comme de l'ensemble des livrets LDDS et LEP, est un plafond très bizarre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un plafond de versement. Ça ne veut pas dire que vous avez le droit de verser 22 950 euros sur votre livret A. C'est un plafond qui ne peut être dépassé hormis par le règlement des intérêts. Donc, si vous voulez optimiser votre livret A, il faut surtout pas vous trouver dans une situation genre où vous mettez 10 000 euros l'année N, et puis 3 ans plus tard, on va dire, vous avez 11 000 euros parce que vous avez touché des intérêts.
Enfin, le versement des intérêts va grignoter l'espace qui reste pour verser du capital, c'est ça ?
Exactement. Vous ne pouvez plus verser que jusqu'à arriver à 22 950. Donc, sur ce genre de produit, en pratique, si on veut les optimiser, il faut, lorsqu'on les ouvre, verser au plafond et ensuite, finalement, ne pas retirer ou retirer simplement les intérêts, parce que le franchissement, les intérêts vont vous permettre de franchir
le plafond de 22 950 euros.
Le plafond. Et donc, là, c'est aussi, entre guillemets, c'est un peu une astuce. J'entendais tout à l'heure, il y avait un débat sur la non-modification du plafond de l'IFI, en disant, ah ben ouais, c'est les barèmes, ils n'ont pas bougé depuis des lustres, alors que le barème de l'impôt sur le revenu. C'est fait volontairement pour grignoter l'avantage fiscal, et comme le plafond du livret A est fait pour grignoter l'avantage qui est accordé, parce que dès que vous touchez des intérêts, en fait, vous réduisez votre capacité d'investissement sur le produit.
Question de Louise, qui réagit en fait à votre chronique de tout à l'heure, Jean-François, qui nous dit, la solution n'est-elle pas dans le choix du paiement du dividende en action ? Je vous laisse replacer cette phrase dans le contexte de la chronique.
Ouais, le sujet tout à l'heure, c'était, vous m'interrogiez, Stéphane, sur la mesure de la performance d'un portefeuille boursier pour savoir s'il fallait se comparer au CAC 40 ou s'il fallait se comparer au CAC 40 dividende réinvesti. Et je vous disais, moi, je préfère me comparer au CAC 40 non dividende réinvesti, quitte à retraiter les dividendes par ailleurs, tout simplement pour des raisons de réinvestissement, et que quand j'ai 90 balles à placer parce que j'ai touché un dividende, bah, ça m'embête de faire une opération pour de si faibles montants. Et Louise, elle est maligne de nous dire ça, parce qu'effectivement, il y a l'existence de cette solution, c'est le dividende en action. En pratique, c'est quoi le dividende en action ? C'est que la société vous dit, au lieu de percevoir votre argent directement, eh bien en fait, je vais faire une augmentation de capital avec éventuellement une décote, et vous allez pouvoir directement réinvestir dans la boîte en ayant des actions nouvelles. Alors, plusieurs remarques par rapport à ça. Premièrement, quand on a du dividende en action, est-ce qu'il faut systématiquement le faire ? C'est une tendance des investisseurs particuliers, je n'y suis pas toujours favorable, et je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, c'est dépendant du poids de la valeur dans votre portefeuille. Si vous avez une valeur qui ne fait que grossir dans votre portefeuille et que tous les ans vous réinvestissez dans la valeur les intérêts, mais vous allez avoir une position qui va devenir gigantesque, votre prise de risque va être trop importante. Or, dans toute la méthodologie de marché gagnant, le concept de base, c'est quand même de gérer la prise de risque et d'éviter des prises de risque qui sont trop importantes. Donc, est-ce qu'il faut le faire systématiquement ? La réponse est non. Mais là, surtout, là, ce que j'ai envie de dire à Louise, c'est que moi, j'ai un problème. Sa solution, elle est intellectuellement parfaite, mais moi, j'ai un problème tout bête. C'est que ce n'est pas une option qui est donnée à tous les investisseurs. Autrement dit, si une entreprise ne veut pas proposer le dividende en action, elle ne propose pas le dividende en action. Et si je regarde, par exemple, les 3 distributions qu'on a eues sur le portefeuille de marché gagnant ce mois-ci, c'est-à-dire Eramet, Veolia et Crédit Agricole, aucune de ces boîtes-là ne m'a proposé le dividende en action. Donc, d'ailleurs, si on fait, tout à l'heure, je faisais une proposition sur le LEP en disant, le LEP, ça serait quand même plus malin que la rémunération soit accordée au jour le jour plutôt qu'à la quinzaine pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Là, j'aurais presque une proposition à faire. C'est que on devrait faire en sorte que le paiement du dividende en action ne soit pas, ce qui est le cas aujourd'hui, une option qui est proposée par le code de commerce, c'est-à-dire c'est la société qui décide, mais que ce soit en fait quelque chose qui soit systématiquement proposé. Très sincèrement, je sais que les entreprises sont pas favorables à ça parce que ça a des coûts, ça génère des délais, mais sur le fond, on sait la réalité des choses. Le dividende d'action, c'est quelque chose qui plaît aux actionnaires individuels. Pourquoi? Parce que c'est un truc, ça leur simplifie la vie. C'est un truc qui débecte totalement les investisseurs institutionnels et notamment les fonds de pension parce que eux, ils ont des contraintes et que eux, ils utilisent en fait le dividende pour aller payer des retraites. Donc, ils n'ont pas envie de le réinvestir dans la boîte. Et donc, en fait, j'aurais tendance à dire que si on mettait cette option, ça me permettrait aux actionnaires individuels d'en profiter, les autres n'en profiteraient pas. Et puis, quelque part, ça remonterait le poids des actionnaires individuels dans le capital des entreprises françaises. Est-ce que c'est pas quelque part aujourd'hui ce que l'on essaie de faire ?
Jean-François, j'ai une question de Aziz. J'espère juste qu'on va pouvoir y répondre en 1 minute 30. Il nous dit, on me propose un produit structuré avec un dividende prédéfini sur le sous-jacent. Enfin, je crois que c'est ça. Pouvez-vous décrypter ? Le commentaire n'est pas de moi, hein. Je crois que c'est ça. C'est Aziz qui nous écrit.
Ouais, ce que nous dit Aziz, en fait, c'est qu'il essaie de reprendre des mots qu'on lui a dit.
C'est une terminologie un peu particulière quand même, les produits structurés.
Alors, un produit structuré, c'est quoi ? C'est un produit où, en fait, on va vous donner une performance qui va être assez lisible.
Vous avez une minute.
On va vous donner 4-5%, etc., en fonction d'un événement. Moi, j'appelais ça, à une époque, il y avait des grands débats sur la place, moi, j'aimais ça appeler ça les produits à formule, ou à promesse, pardon. Parce que c'est une promesse qu'on vous fait, et comme je dis, comme je suis pas fan de ce genre de produit, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc, il y a une condition, et cette condition, elle repose sur un sous-jacent. Sous-jacent, ça peut être un indice ou ça peut être un titre. En pratique, en 2020, c'est un montage qui est fait. Vous, on vous donne un truc simple, c'est voilà combien vous avez gagné. Puis d'ailleurs, on fait de la bidouille financière avec tout ça. Et notamment, on prend l'établissement qui fait ça, il prend en compte les dividendes parce qu'il sait qu'il va se les mettre dans la poche. 2020, il y a eu un gros spoons parce qu'il y a eu plein de boîtes avec le Covid qui ont arrêté de distribuer des dividendes. Et puis, vous avez tous les gens qui font des structurés, BNP Paribas et Société Générale en tête, qui se sont pris des tolls gigantesques. Donc maintenant, on dit, grosso modo, on va prédéterminer un truc. Bref, c'est fait surtout pour que l'établissement financier court un risque moindre. Et du coup, c'est plus compliqué pour les variants.
Merci beaucoup Jean-François Fillâtre, directeur éditorial de Marché Gagnant. Je parlais tout à l'heure de Mafia Bordelaise quand je parlais de Jean-François et évidemment de Jean-Louis Cussac. Un plan large en plateau, regardez, il y a la Mafia Bordelaise qui vient également de s'installer. Décidément, cette chaîne est tenue par des Bordelais. Jean-Marc Daniel, que vous aurez le plaisir de retrouver dans quelques instants, dans 90 minutes business. Bienvenue à vous Jean-Marc, et aux commandes de l'émission, évidemment, Sandra Gondouin. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ?
On va parler
de... Qui mériterait.
Oui, exactement. C'est tout comme. J'y vais beaucoup depuis que je connais Jean-Marc, sachez-le. Bon, bref, on va parler d'inflation, on va parler de négociations commerciales, pardon.
C'est une belle ville, on peut parler de Bordeaux.
C'est une ville magnifique, évidemment, voilà. On va parler de tout ça. On va parler aussi d'un invité qui aide les entreprises à réduire leurs émissions carbone et leurs dépenses d'énergie grâce à l'IA. C'est Pure Control qui sera avec nous tout à l'heure. Plein de choses à vous dire.
Merci beaucoup Sandra. À suivre donc dans une poignée de minutes, 90 minutes business. Je vous rappelle juste la performance du CAC, 0,75% de hausse, 7152 points en rebondi après trois séances dans le rouge. Très bonne journée sur BFM Business.